Aldia, la femme divisée, de Jacques Probst. Personnage. Aldia A et B. Quel était mon âge quand, pour la première fois, je suis parvenue à réunir et maintenir en un bouquet, pour mon papa, quelques fleurs que j'avais cueillies. C'étaient des primes verts, des pâquerettes, des crocus, le commencement d'un printemps. J'avais 2 ans, peut-être un peu plus. Assise à la fenêtre du compartiment d'un wagon d'un train lancé sur une rapide paire de rails de fer, au premier jour où il m'a vue, il m'a demandé mon nom. C'était un homme des montagnes de Maghashra. C'était un jour de marché auquel il venait vendre chèvres et moutons. Face à moi, dans le compartiment, un homme de 60 ans. Il s'appelle Tolkaneri. C'est un marchand de mâts. Giba. Et devant Giba, 16 000 javelots, 25 000 arcs, et pour chaque arc, 800 flèches, 60 000 épées, 12 000 cavaliers. Un vieil homme, qui s'en revenait de ses champs, nous proposa dans sa maison le boire et le manger, et de quoi nous reposer. Nous étions en route pour les montagnes de Maghashra, et mon mari ni moi ne savions qu'il y aurait, comme une pierre sur le chemin, la ville de Giba. Quand il ouvre enfin la porte, c'est sur la nuit noire, où dansent les sentiers lumineux de 50 chiens, où jettent des éclats leurs dents. J'entends leur salive en mouvement dans leur gueule. À un moment, dans le compartiment, chacun a ouvert son sac. Je peux, comme ça, t'en trouver 12 autres. Alors, lequel de ces commencements préfères-tu? N'importe lequel me couchera sur le billot. N'importe comment, quelle que soit la façon de commencer, ça finira sur le billot. Alors, choisis.
Tu t'égares, ma chérie, tu divagues. Retire tes doigts de ces foutues lames. Pose tes mains sur tes genoux. Pose-les n'importe où, mais, nom de Dieu, pas sur ces lames. Veux-tu boire quelque chose? Un verre de Glenfarclas.
Tu n'en veux pas? Tu auras du mal, ma chérie, tu auras du mal.
Le train, c'est le commencement que je préfère. Assise à la fenêtre du compartiment d'un...
Le train? Oublie-le. Tu ne voyages pas en chemin de fer, mon petit. Tu tires la langue sur un chemin de croix. De croix, sacré nom de Dieu. Dis-nous plutôt, quel âge avais-tu quand...
2 ans. Peut-être un peu plus. C'était le commencement d'un printemps. Des primes verts, des pâquerettes, des crocus. J'étais très fière de mon bouquet, le premier que je réussissais à maintenir dans mon poing. Mon papa était très fier de moi. C'était mon premier bouquet.
Je le connais, ce bouquet, comme si je l'avais fait. Nom de Dieu, que ça fait vieux. Et le sourire de papa quand il l'a reçu, nom de Dieu. C'est loin tout ça. Épargne-nous l'enfance. Et dis-nous plutôt, quel âge avais-tu quand...
L'homme des montagnes de Maghashra. J'étais le commencement d'une femme. Je ne sais combien de bouquets plus tard, un jour de marché auquel j'accompagnais mon père, qui venait m'y acheter chèvres et moutons. L'homme était descendu des montagnes de Maghashra, vendre au marché chèvres et moutons. Il négociait avec mon père le prix des chèvres, le prix des moutons, quand il m'a vu. Plus tard,
l'affaire avec mon père conclue, il m'a demandé mon nom. J'ai dit « Algia », parce que c'est mon nom, celui qu'aussitôt né, mon père a posé sur moi. Quelques marchés plus tard, avec la bénédiction de mon père, cet homme des montagnes de Makashra m'épousa. J'avais dû lui plaire. Il m'emmena chez lui, ne m'a plus jamais nommée, de sorte que mon nom, personne ne l'a plus connu, sauf mon père, qui m'appelait Jia, mais c'était mon père, et quand il disait Jia, c'était Al-Jia qu'il disait. J'eus avec mon mari une sorte de vie dans les montagnes de Makashra. Puis je lui faussai compagnie et retournai vivre chez mon père, à 3 jours de marche des montagnes, dans la ville où j'étais née, qui s'appelait Bethléem. Un enfant nu sur un tas de paille n'y était pas encore né dans une étable. Il s'en faudrait de plusieurs siècles, c'est dire si mon histoire est ancienne. Quand je revins vivre chez mon père, l'étable où devrait naître plus tard cet enfant n'était pas encore bâtie, et loin d'être né l'âne et le bœuf qui, dans l'étable, réchaufferaient la misère du nouveau-né.
Tu ne diras pas que ton mari ne t'aimait pas. Ce serait un énorme mensonge. Il t'aimait énormément. Il aurait pu te faire chercher chez ton père, te donner à lapider devant le mur de la ville. C'était son droit. Ton père lui-même n'aurait pu s'y opposer. L'époque était ainsi. Mais, nom de Dieu, il y en a eu de pire depuis. Tu vivais à Bethléem depuis 4 mois quand ton mari,
juché sur un âne, vint m'y chercher, sans reproche. Doux, les bras très tendres, les yeux mouillés de tant m'aimer. Mon père lui fit grand accueil, l'assit devant 4 jours de bonbance, et, que se dirent-il par-dessus les plats de chevreaux, de moutons et par-dessus les cruches de vin? Sûrement rien qui vaille la peine d'être relaté, car toutes ces journées et ces nuits sont consignées dans un livre si gros que de lui on dit « le livre ». Le livre ne mentionne aucune de leurs paroles, mais assure qu'ils burent et mangèrent durant 4 jours. Et quand ce livre dit boire et manger, c'est vraiment boire et manger qu'il faut entendre. Vraiment boire et vraiment manger, repousser hors de raison toute satiété. Ces 4 jours étaient le commencement d'un printemps. Prime vert, pâquerette et crocus, mais d'un printemps. En était sain. Dès l'aube de ces 4 journées, mon mari se levait, harnachait l'âne qu'il sortait de l'étable, et tombait sur mon père qui le ramenait à table. Une autre journée passait. Vers la fin du 5e jour, mon mari subitement quitta la table, sangla notre barda sur l'âne, m'assit par-dessus et se tourna vers mon père assis à la table devant de cruches encore pleines de vin. Mon mari a dit « Merci ». J'avais embrassé mon père. J'aurais dû lui dire adieu. Nous avons quitté la maison, celle de mon père, où mon père, quand j'étais une toute jeune Algia, me disait « Jia » et chérissait mon avenir. Nous faisions chemin vers les montagnes de Makashra, l'âne et moi sur l'âne, et mon mari à la tête de l'âne. Le soir venait à notre rencontre, et aussi les murs de la ville de Giba, comme une mauvaise pierre en travers du chemin.
Cesse de caresser cette scie. Incroyable cette manie que tu as. Toujours un morceau de lame entre les doigts. Une maniaque. Des électriciens diraient de toi qu'on n'y voit pas la lumière à tous les étages. Mais je reconnais, ma chérie, que le chemin, celui de croix, tu t'y es bien engagée.
Tu pourrais toi-même y faire quelques pas.
Ce chemin-là, tu n'en connais pas moins que moi chaque motte de terre, bouquet d'herbe et chaque pierre.
Et maintenant, en travers du chemin, cette autre pierre, Giba. Prends la suite, je t'en prie. De Giba, tu te souviens comme moi.
Je n'ai pas la voix qu'il faut. Ah, nom de Dieu, vraiment pas. Laisse-toi tenter par un verre de Glenlochie. On en trouve rarement de nos jours. La distillerie a fermé il y a 12 ans. Tu as tort de ne pas boire.
Tu t'engages sur un climat où seulement les chameaux survivent sans boire.
J'en essaie un autre, veux-tu?
Un Glenfiddich.
Non plus?
Ça te ferait pourtant grand bien avant d'entrer dans Guiba.
Le soir était sur vous, la nuit à deux pas. Il allait falloir trouver un abri contre la nuit. Et voilà Guiba, une pierre en travers du chemin. Mais comment déjà le savoir?
À ce moment-là, Guiba représentait pour la nuit à venir un abri possible.
Guiba, Guiba, et devant Guiba, 16 000 javelots, 25 000 arcs, et pour chaque arc, 800 flèches, 60 000 épées, 12 000 cavaliers, des frondes et pour chaque fronde un sac de pierre. Et aurait-on su devant Guiba à cette époque-là s'en servir? On aurait vu devant Guiba des canons, des lance-roquettes, des lance-missiles, des lances tout ce qui se lance et qui fait mal une fois retombé. Et dans le ciel de Guiba, de vieux B-52 auraient fait l'affaire si l'on avait su s'en servir. Mais les plus belles inventions de l'époque étaient là, devant Guiba, dont les murs tombaient et dont tombaient les maisons. Dans Guiba, les rues étaient encombrées de maisons tombées, des meubles qu'elles contenaient, des morceaux des gens qui n'avaient pu à temps les quitter. Et sur ces encombrements passés au fil de l'épée, 3 000 enfants et leurs mères éventrées qu'on n'avait pas violées, tant était grand le dégoût qu'inspirait Guiba. Et tant aussi on était pressé d'en finir avec Guiba, où l'on avait saigné comme nulle part encore on avait saigné. Ça filait en rigole sur les pavés. Et quand fut jeté par terre tout le sang qu'on y avait trouvé, on mit le feu à Guiba, maison par maison, celle qui était encore debout. Mais on avait auparavant chié et pissé dans les fontaines, dans les puits. Il n'aurait pas fait beau avoir soif sous l'incendie. Aujourd'hui, de Guiba, ne reste pas même le seuil de pierre qui reçut sur un peu de poussière le dernier souffle de ma vie. Quand je suis née, ma mère m'a prise contre son sein, et puis a expiré. J'étais nue, mouillée, vagissante comme il se doit d'un bébé sur le sein de ma mère qui venait d'expirer, comme il ne se doit pas d'une maman. Mon père m'a prise dans ses bras et avec tant de larmes m'a nommée que mon nom ruissela, Algia. Ai-je déjà parlé de maman?
On s'en fout, elle est morte à peine te voilà née. Et le livre où tout est consigné n'en parle pas.
Et ne me nomme pas. Et pourtant mon père a posé sur moi un nom. Et ce putain de livre vendu à qui l'a voulu n'en dit pas un mot. Le livre dit seulement que sur le soir, nous entrions dans Guiba, où mon mari, ici et là, demanda l'aumône d'un toit sous lequel abriter notre nuit, et n'en trouva pas. J'ai suggéré que nous dormions où nous étions, sur cette petite place de la ville. Mais mon mari, qui connaissait la vie, me dit qu'en ce début de nuit, les brigands quittaient leur repère et croisaient ainsi les chiens qui rentraient à leur niche. « Nous sommes entre chiens et loups, » a-t-il dit. « Nous ne pouvons pas dormir ici. » Alors un vieil homme qui s'en revenait de ses champs nous proposa dans sa maison le boire et le manger, et de quoi nous reposer.
« Vous ne pouvez pas rester ici, » nous a-t-il dit. « C'est entre chien et loup, l'heure la plus mauvaise. »
Comme nous entrions chez lui, sa fille, d'une douzaine d'années, qui s'en allait au lit, m'a embrassée. Je lui ai dit « Bonne nuit, petite fille. Où est ta maman ?» Mon père, a-t-elle souri, est un survivant. Puis elle est allée s'endormir dans sa chambre, ensuite le sac et l'incendie de Guiba, et tout ce que là autour on voudra imaginer.
Mais nom de Dieu, tu vas pas t'en tirer à si bon compte. On te demande un chemin de croix, tu nous joues la résurrection. Que les hommes aiment se battre entre eux, c'est entendu, mais tout de même, il leur faut un prétexte. On ne met pas une ville comme Guiba sur le sable sans un moindre prétexte. Ce que nous voulons entendre, c'est le récit de la nuit passée dans la maison de ce vieil homme qui s'en revenait de ses champs et vous a offert le boire et le manger et de quoi vous reposer. Voudrais-tu boire quelque chose avant de commencer?
Rien du tout. Et pareil pour le récit de cette nuit dans la maison du vieil homme. Rien du tout.
Ah, nom de Dieu, si cette petite fille de 12 ans qui vient de s'en aller dormir dans sa chambre te voyait, elle ne serait pas fière de toi.
Je ne lui dois rien.
La vie de son vieux père, tu la lui dois.
Qui dit qu'il est mort?
Oh, après toute cette nuit, ceux qui l'ont pris n'ont pas dû laisser aux yeux de sa fille grand-chose pour le reconnaître. Prends ça, Glenmorangie, et raconte.
Une grande table était cernée de 4 bancs dans la chambre où nous étions. Le vieil homme s'est assis, et puis mon mari, en face de lui. Je me suis tenue en retrait d'eux, sur un tabouret contre le mur du fond. À mon mari, le vieillard a demandé mon nom. Mon mari n'a pas répondu. A lui-même posé au vieillard une question à propos de notre itinéraire du lendemain. Le meilleur chemin pour rejoindre d'ici les montagnes de Makashra. Ai-je eu l'intuition de l'inutilité de la question? J'allais au vieil homme dire mon nom. J'allais lui dire Algia. Quand derrière la porte, une voix si violente que presque elle en défonça les planches, hurla.
Cet homme étranger que tu reçois, envoie-le dehors, que nous fassions sa connaissance.
Cette phrase est consignée dans le livre, et quand le livre dit « connaître », c'est intimement connaître qu'il faut entendre, très intimement. Vous me suivez ? Ils étaient bien 50 là-dehors, à vouloir faire la connaissance d'un étranger. La situation est claire maintenant. Je suis assise à la fenêtre du compartiment d'un wagon d'un
foutu bête. Tu n'en rates pas une. Tu divagues, tu es givrée, folle, tu es folle. Voilà 40 ans qu'elle voyage dans un train, complètement brindingue. Aucune ligne de chemin de fer ne demande à un train 40 ans pour parvenir à son terminus. Elle est cinglée, gravement. Des boulangers la verraient, ils verraient l'os aussi qu'il y a dans le pétrin. Pose ce couteau, pose-le, tu vas te blesser. Foutre du sang partout.
Du sang, d'ici pas longtemps. Ça ne va pas manquer. Partout.
Pose ce couteau. Pose-le, ma chérie.
C'est de ce couteau que ta main a le moins besoin. Crois-moi, pose ça. Quitte ton train. Retournons ensemble chez notre bon vieillard, chez sa fille de 12 ans qui dort dans sa chambre. Et comme au vieillard tu vas dire ton nom, comme tu vas lui dire Algia, un hurlement sur le palier fait trembler la porte de ses gonds. Ma pauvre chérie, tu devais être terrifiée. Maintenant, pose ce couteau. Ne va pas te blesser avec ça. Je ne risque rien. Je tiens le couteau par le manche.
Il pourrait devenir imprudent de me contrarier. Va, si tu veux, dans la maison du bon vieillard, en pleine ville de Guiba.
Moi, je prends mon temps. Je t'y rejoindrai plus tard. Ça va comme ça? Parce qu'autrement, j'aurais tout fait de... Elle passe en souriant, la pointe de la lame sur son cou. Ça va comme ça, assise à la fenêtre du compartiment d'un wagon, d'un train lancé sur une rapide paire de rails de fer. Mes yeux vont dans les paysages, et le pays est désert. Tout autour de nous ne défile que sable et que cailloux. Mais à l'horizon du nord, les collines sont des merveilles, qui élèvent à plein bras des arbres vers le ciel, des arbres verts, sur des verdures qu'un jaune printemps perce de primes vertes, de pâquerettes et de crocus. C'est jaune, c'est blanc, c'est bleu. Ça se voit très bien que là-dessus, un instant, s'est posée la main de Dieu. Et les instants de Dieu sont plus longs que les plus longues vies des plus vieux d'entre les hommes. Au fond des vallées que sur des ponts nous traversons, des ruisseaux, et maintenant, de plus importants cours d'eau. Et c'est un fleuve bientôt. Dans le compartiment, quelqu'un a dit « Nous approchons de la mer. » J'ai descendu la vitre de la fenêtre. C'était vrai. Nous approchions de la mer. Une gifle d'iode a claqué dans le wagon où tous les passagers regardaient la fenêtre ouverte, sans me voir. Car jamais personne ne me voit. Et comment donc est descendue la vitre? Aux odeurs du poisson, aux odeurs du goudron, aux cris d'une grue, au grincement de ses chaînes d'un seul mouvement sous le vent douce caisse, à la voix profonde d'un cargo, au claquement sec d'un flacon de vieux rhum qu'on débouche, j'ai dit « Nous approchons d'un port. » Mais on ne m'entend pas, puisqu'on ne me voit pas. Comme nous approchions d'un port, le chemin de fer s'est coudé, et d'un vaste virage, nous voilà roulant vers la pleine terre. Quelqu'un, une femme, je crois, assise à côté de moi, remonte la vitre de la fenêtre, et ne me parle pas parce qu'elle ne me voit pas. Au lieu qu'elle ait sous elle 100 000 roues, il aurait mieux valu, sur la locomotive, dresser 2 ou 3 mâts, y étaler quelques voiles et de sa cheminée faire un gouvernail pour connaître la mer, la traverser et savoir comment c'est de l'autre côté de la mer. J'ai tenté ce coup-là une fois, lancer le train à la suite de sa locomotive sur la mer. Ça n'a pas traîné. Tu m'as aussi sec ramené sur le sable. C'est qu'au-delà des mers, on risquerait de ne pas retrouver la maison du bon vieillard, ni même la ville de Guiba, ni mon mari, ni l'âne, ni rien qui crie derrière la porte de la maison. Assis face à moi, dans le compartiment, un homme de 60 ans. Il s'appelle Tolkaneri. Il est marchand de mazou. Il ne m'a dit ni son nom, ni son métier. Il ne me parle pas puisqu'il ne me voit pas. Mais sur un gros sac de toile, à son côté, il est écrit en lettres de flamme « Tolkaneri, marchand de mazout ». Et son adresse juste en dessous. 19, chemin du milieu. Milieu de quoi? Un nom de ville en dessous de celui du chemin est effacé. À un moment, dans le compartiment, chacun a ouvert son sac, et voici du pain, du fromage, des raisins. Mais du sac du marchand de mazout Tolkaneri n'est sorti qu'un livre, qu'il a ouvert sur ses genoux. C'était le livre. Je l'ai reconnu, ouvert au 19e chapitre du livre des juges, et je suis sûrement devenue très pâle. C'est à ce 19e chapitre de l'histoire des juges que commence mon histoire, celle où je n'ai pas de nom, et où commence aussi et finit l'histoire de la ville de Guiba, dont les bâtisseurs ignoraient qu'ils avaient bâti un bûcher dont je serai l'allumette, qu'une main sans conscience a jeté par-dessus le mur. Tolkaneri lisait,
le livre sur ses genoux fleurait bon le mazout. J'aurais souhaité qu'il me voie, qu'il me parle. Sans l'agrément d'une conversation entre voisins, l'amorosité saisit ceux qui voyagent en train. Mais Tolkaneri, sans me voir, lisait dans le livre ouvert sur ses genoux. J'ai somnolé et lu dans mes paupières l'écriteau d'une gare devant laquelle on passe tout droit. Une petite gare, peut-être seulement le souvenir d'une gare. Sur l'écriteau, inscrit dans mes paupières, j'ai lu Giba, la ville dont on a dit qu'elle s'est dans le ciel enfuie à la terrible faveur d'un incendie.
Jolie, ma chérie, joliment retombée sur tes pattes. Ça vaut bien un verre de Glenbuggy.
Je retombe toujours joliment sur mes pattes. Autrement, tu ne serais pas là avec moi. Si je n'y suis pas, toi non plus. Je n'ai même pas besoin de ce couteau. Je tiens le fil de l'histoire entre mes dents. Il suffit pour que tout se déroule sans heurts, que tu me foutes la paix, que je n'ai pas à grincer des dents.
N'empêche que là, tu es joliment...
Je retombe toujours joliment sur mes pattes et j'en ai marre. C'est toujours sur une nappe de merde que je retombe. Glenbuggy ? Non, merci.
Tu...
Oui ?
Non.
Tu as raison. J'étais assise sur un tabouret contre le mur du fond. Autour de la table, sur des bancs, le vieux et mon mari ne mangeaient plus, trempaient parfois leurs lèvres dans un gobelet. Ce qu'ils buvaient, je n'en sais rien. Assise contre le mur du fond, je ne voyais pas ce qu'ils versaient d'une cruche dans leur gobelet. Derrière la porte, c'était maintenant 50 voix, de plus en plus féroces. À 50, là derrière, on organise un méchant concert. Contre la porte tombent des coups de poing, de pied, de barres de fer. C'est ça surtout qu'on entend. Des coups de poing, de pied, de barres de fer. Coup sur coup, en pleine porte, la grêle quand les grêlons sont des icebergs. Tout ça nous fait de ce début de nuit une tempête à fendre l'âme. Nous sommes trois dans cette chambre, comme trois matelots qui perdent pied sur à peine un canot qu'une main vociférante cherche à perdre sous l'eau. Maintenant tout se tait, tout retombe, de guerre lasse. Mais, de guerre lasse, mieux vaut n'en rien croire. L'accalmie derrière la porte n'est qu'un grand sourire narquois, car, tout à coup, tout recommence. Les coups et les coups et les cris et les coups, si percutants qu'ils creusent des impacts dans les murs de la chambre. L'homme, celui des deux qui est mon mari, serre les dents, tassé au bout de la table sur son banc, ses paupières serrées sur ses yeux comme sont serrées ses dents sur son cœur, dont on entend les grincements, et griffant les paumes de ses mains, l'irrésistible besoin de les serrer sur ses oreilles, ne plus entendre. Oh mon Dieu, pitié, souviens-toi de moi. 50 voix d'hommes enragés lui promettent monts et merveilles et pire encore. Notre vieil hôte, beau vieillard, se tenait devant la porte, debout, la tête ébranlée à chaque coup jeté sur les planches. Il était sans crainte, ayant pour seul souci le bon sommeil de sa fille endormie. Sans crainte. Il était indigné, indigné tout entier, et quand sa voix, pourtant pas bien grosse, sortit de sa bouche, il n'y eut plus derrière la porte ni cri, ni coup. Sauf un seul, dernier, presque involontaire, qui n'avait pris garde à la situation. Le vieillard, sans crainte d'une cinquantaine de sang-froid ni loi, qui avaient tous une fois au moins arraché de la bouche de leur mère à l'agonie une dent parce qu'elle était en or, des qui enculeraient un trou dans un mur faute de chèvre à leur portée, ouvrit la porte, fit sur le seuil un pas, et 50, aurait-on dit, garnement, rien de plus, reculèrent de deux pas. Le vieillard indigné dit, fort, comme il pouvait, mais il pouvait peu. « Vous ne pouvez pas !» Et l'indignation étrangla sa voix. Ça donna quelque chose comme ça. « Vous ne pouvez pas !» Le vieux se redressa, fit l'effort de s'ouvrir la poitrine pour dire à ce silencieux massé à deux pas de lui. « Nous sommes, dès la nuit tombée, le refuge des étrangers. Vous ne pouvez pas chier sur la loi de l'hospitalité. Chez moi, c'est un homme avec sa femme. Le râne sommeille dans l'écurie. Ils avaient besoin de repos, de pain, de vin et d'un toit sur tout ça, parce que dehors il fait nuit. D'ici à demain matin, quand ils s'en iront, leur maison est chez moi. Si cet étranger vient vous rencontrer comme vous le demandez, vous l'enculerez, le noirez sous le jus de vos couilles et le conchirez par-dessus le marché. Cet homme à jamais n'en sera plus un. Il réclamera pour finir vos couteaux dans sa gorge. Il est en chemin, et dès le petit matin de demain, il poursuivra son chemin. Voulez-vous être sur ce chemin la crevasse où l'on tombe? Cet homme en voyage n'est pas chez moi comme chez lui, il est chez moi comme s'il était moi-même. Et vous voudriez prendre en pleine nuit cet étranger qui m'a donné sa confiance pour la pleine nuit? Savez-vous ce qu'il adviendra de cette ville si l'on apprend qu'une nuit, à Guiba, un étranger s'est fait casser les dents à coups de bite, s'en est fait foutre plein le ventre par le cul? Le vieil homme était très vieux. Il était à bout de souffle. Des larmes venaient sous ses yeux. À son indignation, se mêlait pour cette cinquantaine devant lui de la compassion. Dans le silence, 50 mâchoires bavaient de rage. Le vieillard referma la porte. Un petit claquement éclabousse le silence de la chambre. Mon mari desserre ses dents, expire longuement, ouvre les yeux, bateau presque chaviré, avec enfin devant lui l'apparition d'un port, d'une crique tout au fond ou abordée. Mais les mirages viennent sur la terre comme sur la mer, et les bateaux comme les hommes ont des illusions. Le vieil homme savait, lui, le poids du silence derrière la porte. On pouvait, à ces 50-là, en dire et redire. Il voulait du cul, il voulait de la casse. Il ne s'en irait pas sans avoir obtenu l'un et l'autre. Alors le vieux, soudain très vieux, ses lèvres contre la porte comme s'adressant à une oreille, murmura d'un murmure tel qu'on l'entendit au-delà de la porte. « Je n'ai qu'une fille. Elle a 12 ans. Dors maintenant dans son lit d'enfant. Prenez-la et allez-vous-en. » La réponse fusa. « Vieux salaud qui donne son unique fille pour la sauvegarde d'un étranger !» Ils l'avaient tous, les 50, vu rire et sourire dans ses premiers jours, réussir ses premiers pas sur des chemins autour de chez eux. Et chacun d'eux, quand elle passait, lui avait offert une cerise, une prune, et d'elle avait reçu, dès qu'elle sut les réunir et les maintenir en un bouquet, des primes verts, des pâquerettes et des crocus, parce qu'elle était en son printemps commençant. Derrière la porte, ils étaient outragés. Leur offrir cet enfant, c'était ne plus les compter au nombre des humains. Il y a des choses qu'un homme ne fait pas, des choses que ces 50-là, devant la porte, ne feraient pas. L'un d'eux hurla, « Nous voulons l'homme, nous aurons l'homme !» Et de nouveau le silence, qu'éclabousse un petit claquement. Mon mari serre ses dents les unes contre les autres. Je ne suis plus assise sur un tabouret, mais debout, contre le mur du fond. Je regarde les deux hommes, le vieillard debout devant la porte, au cœur glacé ouvert à tous les vents, dont l'oiseau, comme d'un nid, s'est envolé. Debout devant la porte, c'est un vieux tout foutu qui regarde avec des yeux vidés la porte de la chambre où dort sa fille, qui dort très bien, mais qui, du cœur d'un vieux, s'est envolé sans même le savoir. Je vois l'autre aussi, les dents serrées, qui m'avait un jour épousée. Celui-là va maintenant, maintenant que le vieillard n'a plus rien à offrir, ouvrir la porte et... C'est un homme des montagnes de Makashra. On est des hommes dans ces montagnes-là, sous des cieux dont souvent tombe un aigle sur un chevreau, sur un agneau. C'est un homme des montagnes de Makashra. Il va ouvrir la porte et... Le vieil homme aussi le regarde, avec presque plus des yeux, et de ses restants d'yeux lui dit qu'il avait tout, tout donné de ce qui était à lui. Derrière la porte, on attend. On sait attendre derrière la porte. Mon mari va maintenant ouvrir la porte. Mais comme enfin je vais commencer à l'aimer, il lève les yeux sur moi, et au fond du vieillard, qui a vu mon mari lever les yeux sur moi, tremble un sanglot à mon égard. Dernier bruissement d'amour que je reçois dans ma vie. Aussitôt, contre la porte, une volée de coups. Les yeux de mon mari sont sur moi. Je dis, je sors. Mon mari dit, tu es folle, mais avec presque pas de voix. Je dis, aide-moi, emmène-moi dehors. Il se lève de son banc et, sur des pieds très lourds, vient devant la porte, me prenant par le coude au passage. Il lui reste à faire ça, ouvrir la porte.
On ne t'entend plus très bien, ma chérie. Tu parles trop bas. Tu veux boire un verre de Glenlivet? Le Glen, des Glen, rien de mieux pour se remettre en voie. Les bons alpinistes ne risquent jamais le péril d'une grande ascension. Roches, neige et glace, bivouac en pleine paroi sous les orages qui durent deux nuits, sans avoir au fond de leur sac un petit flacon de Glenlivet. Je te parle des bons alpinistes. Non, tu n'en veux pas? C'est moi qui vais le boire. Quand enfin ton mari a ouvert la porte, c'est sur la nuit noire où dansent des yeux lumineux de 50 chiens, où jettent des éclats leurs dents. L'homme qui t'avait épousé lâche ton coude. Tu m'arrêtes si je me trompe. Te pousse doucement sur le seuil. Tu m'arrêtes si je me trompe. Et dans ton dos, la porte se referme. S'il y avait eu dans cette époque un pistolet caché dans le tiroir de la table de la chambre, tu en aurais entendu derrière la porte le fracas, et le vieil homme aurait roulé par terre, la tête emportée. S'il y avait eu dans cette époque du tabac de Maryland autour duquel roulait une feuille de papier très fine, l'homme que tu avais épousé aurait allumé une cigarette. S'il y avait eu dans cette époque des allumettes. Une main timide s'approche de toi. Tu m'arrêtes si je me trompe. Puis d'autres mains, vigoureuses, te tirent en bas le seuil de la maison. Tu m'arrêtes si je me trompe. On déchire ta robe. Et quand tu es nue, ce Glenlivet, je l'ai avalé de travers. Si nous retournions faire un tour sur ton chemin de fer, une visite à Tolkaneri, ton marchand de mazout, si nous profitions d'une gare où il s'arrêtera pour sauter dans ton train juste avant qu'il ne s'ébranle, il s'en passe de belles dans les trains dont nous pourrions faire le récit sans risquer de perdre sa robe au cœur de la nuit devant le rut d'une cinquantaine de chiens. On déchire ma robe. Et quand je suis nue,
Mon cul est un astre blanc tombé du ciel dans la nuit noire. Et dis-moi un peu, où vont les trains quand il n'y a plus de rails devant eux? Ils se rejoignent quelque part d'où jamais leurs passagers ne reviennent nous dire où vont les trains quand il n'y a plus. Quand j'étais une petite fille. Quelle petite fille? Je suis une femme. La nuit est noire. Je m'y tiens nue devant 50 hommes qui se demandent à quelle sauce ils vont bien m'accommoder. Quand j'étais une petite fille, je n'ai jamais coupé les pattes des lézards pour en faire des serpents, jeu favori des enfants. Et jamais je n'ai percé les yeux verts des chats pour savoir s'ils verraient encore la nuit. Sur des chiens, je n'ai jamais lancé des pierres. Et d'une fleur de rien sur le bord du chemin, je n'ai jamais éparpillé les pétales blancs. Un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. Je n'ai jamais joué au jeu des enfants. J'aurais peut-être dû. J'aurais peut-être maintenant, sur le seuil de cette maison, moins peur de 50 hommes qui retrouvent leur jeu d'enfant. Ma mère, je ne l'ai pas vue. Et mon père, ton père t'aimait. Mon père m'aimait. Je suis une femme maintenant, qui a la nuit sur elle, et 50 chiens avides devant une femelle. On me jette par terre, aux pieds de vieux qui ne peuvent plus que d'entre 3 dents me cracher dessus. Je suis couverte de leurs crachats, aux pieds de jeunes qui ont pour la première fois porté de leur bite une femme nue. Je suis couverte de leurs découvertes. Les autres ne sont ni jeunes ni vieux. Ils sont les plus nombreux. Et à ceux-là, m'enfiler le cul, m'enfiler le con, m'en foutre plein la bouche ne suffit pas. Me voilà le ventre, la tête et les seins, les jambes et le dos, plein de coups de pied, plein de coups de poing. Mes dents s'échappent de mes gencives. Ils sont sur la terre battue, les billes d'un boulier cassé. Chacune de mes côtes en trop un morceau, et chaque pointe de chaque morceau crève mes poumons. J'ai failli rire quand le con, la bouche et le cul plein, et encore une bite dans chaque main, une autre entre mes seins, celle très puissante d'un très jeune homme, tenta de forcer un passage à travers mon oreille. Pauvre jeune homme, pauvre garçon, qui de la vie doit encore tout apprendre. Où est celui qui, dans le creux de sa main, me donnerait à la paix un peu d'eau fraîche? Où ce Simon de Cyrène, porteur de la croix d'un autre, quand il n'avait plus la force de porter sa croix? Et où ce Samaritain, bon comme le pain, qui embaumerait mes plaies vivantes? Et où celui qui creverait mes yeux, que je ne vois plus mon sang répandu sur la terre battue de la rue? Il y a comme ça des nuits peuplées d'individus où on se sent bien seul et bien perdu. Ils m'ont tellement violé, tellement déchiré, tellement frappé, tellement mordu, tellement toute la nuit. Garde-toi bien, ma chérie, d'exagérer tes propos. Tous les hommes de Guiba n'étaient pas sur toi. Loin s'en faut. Guiba compte dans ses maisons quelques milliers d'hommes. Et ceux qui faisaient la fête à ton cul n'étaient qu'une 50aine. Les autres, à 7 heures de la nuit, n'entendaient rien. Ils dormaient, les bras et les jambes rompus par une journée de travail. Ils ont labouré des champs, fauché des prés, tondu des moutons, découpé d'autres moutons. Ils dorment d'avoir tout le jour moissonné des blés, vendangé des vignes, tanné des peaux, à l'heure où l'on tannait la tienne. Tous ces hommes dans Guiba dormaient d'un sommeil qu'ils n'avaient pas volé. Tu as trouvé sur ton chemin ce qu'on ne voudrait pas le soir croiser au fond d'un bois. Mais je t'en prie, ma chérie, n'exagérons rien. Il n'était qu'une bande de garnements, voleurs de poules, sauts de barrières. Quelques larrons en foire quand les occasions font le larron. Dis-toi bien, ma chérie,
que cette triste nuit n'est pas toute ta vie. La seule ombre sur ton enfance fut celle de ton père, veillant sur sa petite fille. Tu as grandi dans un grand printemps, à gambader parmi les primes verts, les pâquerettes et les crocus. À des oiseaux bleus minuscules, tu as offert à pleines mains des poignées de grains dorés. Tu as parlé à des agneaux, longuement, qui longuement t'ont répondu. Plus tard, tu accompagnais ton père sur les marchés. Il était assis sur la charrette. Tu étais devant lui, sa fière fille sur le dos de l'âne, tirant la charrette. Et un jour, sur un marché, il a été bel homme, celui des montagnes de Makashra venu là vendre chèvres et moutons, qui a su à papa demander ta main, et à toi te parler, comme petite fille tu parlais à des agneaux. Et souviens-toi, la belle saison des belles fiançailles, le bel homme qui t'aimait comme t'aimait tout ce qui était au monde, et même du dessus du monde qui en est le ciel, t'aimait les anges. Et souviens-toi, les beaux jours et les belles nuits de la belle semaine de vos belles noces. Et souviens-toi, comment, bien après les épousailles, ton mari, la nuit, vénérait le soleil que tu lui étais la nuit. Il a consolidé le toit de sa maison pour toi, dans les montagnes de Makashra. Et souviens-toi, de combien de fois pour te plaire, au lieu de paille et de foin, il a rempli de fleurs et de fleurs la crèche où mangeaient les ânes. Et souviens-toi de combien d'anneaux, pour te plaire, il n'a pas dans la gorge planté ses couteaux. Que veux-tu dire? Qu'il était bon mari? Le meilleur. De ça aussi, souviens-toi. Ce n'est pas parce qu'à Guiba, une malheureuse soirée a mal tourné. Un mari si bon que je suis retournée vivre chez mon père. Qu'aurais-tu fait d'autre, ma chérie, puisque tu es folle? Folle, perdue. Quelle femme dans les montagnes de Makashra, vivant au creux d'une solide maison, dans les bras d'un bel amant, l'aimant tant qu'il a tendu ses lits de soie, n'aurait pas déroulé sa vie comme un long ruban de joie? Tu es folle, il faut savoir ça. Tu bats la campagne. On sent sur elle, dès qu'on la voit, l'odeur du chemin qui mène au cabanon. Elle est tarée, elle est starbée. Elle est folle à rendre fou. Son mari ne la battait pas. Elle aurait pu rester chez lui, prendre le temps de mettre à jouer devant la maison quelques enfants. Elle se serait épargnée le voyage de retour chez son père, aurait à son mari venu le rechercher, épargné le même voyage, et surtout leur aurait épargné à tous deux le voyage de retour vers les montagnes de Makashra et la pierre tombée en travers de leur chemin, qui est la ville de Guiba. Les chefs de gare la verraient passer. Ils diraient qu'elle a raté quelques aiguillages, qu'elle déraille. C'est la façon qu'ont les chefs de gare de dire aux fous qu'ils sont fous. De te voir avec sans cesse cette hache et ces couteaux autour de toi, et cette scie, et surtout, ça me tourne les sangs. Comment? Mais comment, ma chérie, cela va-t-il finir? La sacrée nom de Dieu de route est tracée. Nous n'en sortirons pas.
J'ai vu, parfois, au fond des yeux de ces chiens qui me montaient dessus, une misère noire, qu'à grands coups de bite ils m'enfonçaient dans le ventre. Et de ces yeux, j'en ai vu qui pleuraient, quand tant et plus ils me foutaient des yeux qui ont perdu sur mes épaules et sur mon visage des larmes noires. J'ai alors, comme le vieillard dans la maison, connu pour eux de la compassion. Ils étaient des misérables, et ils étaient des hommes. Les hommes et la misère ne font pas bon ménage. Soit, ils en meurent très simplement, assoiffés, affamés et malades. Soit ils tuent, assoiffés, affamés et malades, avant de mourir de toute façon, assoiffés, affamés et malades. Soudain, l'un des chiens siffle, et tous se redressent, et tous se relèvent, et tous tirent sur eux leurs vêtements, et s'en vont, après sur moi un dernier coup de pied,
ou juste le temps d'uriner. L'un d'eux, comme il se relève, avise mes dents blanches tombées sur la terre battue, et d'un revers de main, les éparpille dans la rue. Je suis presque bientôt morte, mais pas encore tout à fait, et mes gencives sont vides. On m'avait, comme une chienne, rejetée du seuil de la maison parmi des humains dont on savait qu'ils seraient des chiens. Et maintenant, les chiens s'en sont allés, craignant, en ce tout petit matin, qu'un ouvrier de la première heure, marchant vers sa vigne, ne tombe là-dessus, une femme, comme un os, jetée à la gourmandise de 50 chiens. J'ai vu des étoiles, Dieu, que j'en ai vu, et pas des belles, des pas belles du tout, des qui couvrent d'épouvante les parfums des arbres fleuris qui bordent la rue. Avec un peu les bras, avec un peu les jambes, j'ai rampé vers le seuil de la maison dont la porte était fermée. Ma bouche est pleine, et mon nez, c'est du sang et de la terre. Je n'ai plus pour respirer qu'un œil. L'autre pend sur ma joue. Il est de toute ma vie ma dernière larme. D'une soudaine décision, le marchand de mazout Tolkaneri plonge la main dans sa poche et retire un carnet, un stylo, ouvre le carnet, décapuchonne le stylo, écrit 8 ou 9 mots, referme le carnet, le rempoche avec le stylo, et retourne à sa lecture, le livre toujours ouvert sur ses genoux, et je sais ce qu'il lit sans me voir en face de lui. Après avoir abusé d'elle toute la nuit, quand le matin fut venu, ils la laissèrent. Lorsque les ténèbres de la nuit se dissipaient, cette femme vint à la porte de la maison où demeurait son mari et y tomba étendue par terre. Alors, Tolkaneri relève la tête, ses yeux croisent les miens et il me voit assise en face de lui. Menteuse ! Il me dit, comme confus. Foutue menteuse ! Il me dit, ferme ta gueule ou j'appelle des médecins. J'aimerais bien. Que crois-tu qu'ils croiront de toi ou de moi ? Le marchand de mazout Tolkaneri me dit, oserais-je, mon petit, vous demander votre nom ? Il m'appelle mon petit, cet homme de 60 ans, quand je n'en ai pas loin de 3000 des ans. Je lui réponds, Algia. Il referme perplexe le livre et me demande, pourquoi ceux qui l'ont écrit n'y ont pas inscrit votre nom ? J'ai eu peur de lui. J'ai changé de compartiment. M'aidant parfois même du menton pour progresser, je parvins encore un peu vivante sur le seuil de la maison, m'y allongée douloureusement et dit tout haut, mais ce fut très bas. Dormir un peu ne ferait pas de mal à une vieille chienne. Du seul œil qui me restait, j'ai vu sur les lointains l'est se dessiner, un semblant de matin se lever, mais d'un si pâle soleil que d'un clin d'œil il fut vite avalé. Paraître plein ciel après ce que sur la terre il y eut cette nuit-là, ne lui plaisait pas. Le soleil a ses idées, parfois, sur ce qu'il éclaire et ce qu'il n'éclaire pas. J'étais allongée sur le seuil, à chercher de la lumière sur les lointains de l'Est. Ma robe était de la charpie, ou pour ainsi dire, plus rien de robe. Trois lambeaux que je n'avais à ce moment pas sur la peau. L'un traînait en bas de la rue, un autre en haut, et sur le troisième, un jeune chiot se faisait les dents. Il y avait du sang sur ce lambeau, sûrement. Sur le seuil de pierre, devant la porte fermée. Algia, c'est un pauvre tas nu de choses écrasées. La fin de la nuit est très froide. Dans la rue, à part Algia, à part bientôt son cadavre, il n'y a personne. Pas un mouvement. Seul un jeune chiot, etc. C'est du glen quoi, cette fois? Bois-le, il te fera grand bien. Sais-tu ce qui me ferait grand bien? Que tu poursuives un moment le chemin. La porte s'est ouverte. Ton mari t'a vu sur le seuil, couché à ses pieds, a dit « Lève-toi, on s'en va ». Il est allé chercher l'âne dans l'écurie. A repassé devant toi, a dit encore une fois « Lève-toi, on s'en va ». Puis il a appelé le vieillard dans la maison, qui n'a pas répondu. T'as redemandé de te lever, tu n'as pas répondu. Alors il t'a soulevé du seuil et couché comme une bête morte en travers du dos de l'âne, tes jambes ballant d'un côté, ta tête de l'autre, avec, au milieu de ta figure, les yeux très ouverts et très voilés d'une bête morte. Et ils sont partis, l'âne et lui, et toi en travers du dos de l'âne, qui était gris, avec au front une étoile blanche. L'âne que l'on donne aux enfants à regarder dans les anciens très beaux livres d'images, quand on le voit souffler, en compagnie d'un bœuf, et pour le réchauffer, sur un bébé dans la paille tout juste née. Puisque d'une dernière caresse, personne n'avait refermé tes paupières, tu voyais de la maison du vieillard à ta maison dans les montagnes de Makashra, tout le chemin se déroulait. Des cailloux, de l'herbe, des cailloux, de l'herbe quelquefois. Et parmi les cailloux, comme s'il allait vers l'éternité, l'âne faisait son chemin, sa tête étoilée à hauteur de l'épaule de l'homme que tu avais épousé. Sur les touffes d'herbe, quelquefois, passant sous ses yeux, l'âne jamais ne baissait ses naseaux, sachant bien, de cette connaissance des hommes qu'ont les animaux, qu'un pas de retard, son maître ne pourrait le supporter. L'âne allait de ses quatre sabots, l'un après l'autre, parmi les cailloux, avec plein son dos le cadavre d'une femme que son maître avait épousée. Rencontré un jour de marché, où tu accompagnais ton père, parce que tu n'étais plus une petite fille. Tu avais l'âge d'accompagner au marché ton père. Le voyage est long. C'est autour des wagons la nuit, le jour, la nuit encore et le jour, des heures qui passent, et d'autres heures qui passent aussi. Tu es retourné dans le compartiment de Tolkaneri, qui avait sur ses genoux rouvert son livre, le livre. À côté de lui était assise une femme très belle, une belle quarantaine, comme on dit, aux yeux très verts.
et pour faire le bel écrin de belles et hautes pommettes, de grands cheveux d'or, et dans son visage encore, des lèvres auxquelles hommes et femmes voudraient boire. Tolkaneri, le marchand de Mazo, s'est penché vers toi, a très gentiment souri et murmuré « Je n'ai pas peur de vous, n'ayez pas peur de moi. »
Pauvre con, si tu avais retiré ta robe, t'étais foutu bien à poil devant lui, il aurait vu les cicatrices. Ah, les cicatrices! Il aurait, sans aucun mot, sauté par la fenêtre du train en marche, le marchand de Mazo Tolkaneri.
Et maintenant, nous sommes arrivés, ma chérie, dans un creux des montagnes de Makashra. Ton mari te mène devant le bio où fendre le bois d'hiver, décharge l'âne et te pose sur le bio, mène l'âne à l'écurie et revient porteur d'une hache, d'une scie, une grande à grandes dents et trois couteaux de boucherie.
Bois maintenant. Bois, ma chérie, un fond de verre de glaîne, ce que tu voudras, mais bois-le maintenant.
Non, merci. Mon mari, sans prendre le temps de boire un verre d'alcool, la tête froide et l'œil clair, le cœur tranquille battant dans une poitrine tranquille, se sert d'un couteau. Et d'un autre, et de la hache, et de la scie, et me voilà répandu autour du bio, 12 morceaux. On entendra souvent, dans les préaux d'école, cette ritournelle des enfants. Le mari, sur le bio, a posé le corps de sa femme, a choisi ses plus beaux couteaux, et l'a divisé en 12 morceaux. Mon mari s'y est pris très proprement, et tout le temps que dura le découpage, le sillage et le hachage, il eut la main sûre, le sang parfaitement froid. Mon corps en 12 morceaux, c'était 2 jambes, chacune divisée en 2, 4. 2 bras, chacun divisé en 2, 4, et 4, 8. Le tronc, du cou à la ceinture, divisé en 2, 2 et 8, 10. La tête, enfin, en 2 fendue comme une noix, c'était une très bonne hache. 2 et 10, 12, 12 morceaux. Et la charogne qu'il allait faire, ses 12 morceaux, répartis en 12 sacs, jetés en travers de 12 dos de messagers, partis au galop de leurs jambes, dans 12 directions du pays, afin d'y montrer leurs sacs, avec dedans, chacun leur morceau de viande, mais c'est de la charogne. Et à la vue et à l'odeur de chaque morceau, dans chaque sac, on saura, dans 12 confins du pays, qu'à Guiba, on avait chié sur la loi de l'hospitalité. Une hache, une scie et 3 couteaux de boucherie, ça n'a l'air de rien. Mais quand ce petit bouquet d'armes est offert à une seule femme, les bras vous en tombent, les jambes aussi et la tête pour finir. Les 12 sacs de viande, envoyés aux 12 confins du pays, étaient 12 mèches que mon mari avait allumées, afin de stimuler la poudre, et c'était de sa part justement vu. Des 12 confins du pays se levèrent 12 armées qui se réunirent et mirent en selle sur des chevaux des milliers et des dizaines de milliers de soldats, qui n'unissait rien qu'une cible, Guiba. Le marchand de mazout, Tolkaneri, après s'être penché sur moi, avait ajouté à ce qu'il m'avait dit,
Comment vais-je vivre après vous avoir rencontré?
Je ne sais pas. Mais je sais qu'Agiba, parce que seulement 50 m'ont vu, la ville entière est partie en flammes, en sang, et puis en fumée, et les fumées, le temps que ça dure, n'en parlons pas. Le temps de 3 mots, le temps de les prononcer, et les fumées, n'existent plus, et Igiba, non plus. Mm-hmm.